Vous êtes bien sur Radio Bartas.
Vous êtes bien sur le 107 FM.
Il est 9h.
Les matinales de Bartas.
Pour parler de tout et de rien.
Du local surtout.
Et un peu de national, un peu d'international.
Ouais, mais pas trop.
Les matinales de Radio Bartas.
C'est à partir de 9h.
Sur le 107 FM. Ah, mais c'est parce que j'avais pas mes lunettes.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes au joie le lundi 14 septembre, il est 9h et avec moi comme d'habitude Nico, salut Nico.
Bonjour.
Un matinal spécial 50 ans du Parc National des Cévennes, aujourd'hui nous sommes en direct avec Anne Legille, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du Parc National des Cévennes, avec nous aussi en plateau Henri Coudert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du Parc National et Virginie, bonjour.
Bonjour.
Alors tu es chargée de mission spéciale 50 ans pour le Parc National des Cévennes et on se connaît, d'où le fait qu'on se tutoie, donc voilà. Allez, on parle du bel événement que vous organisez pour les 50 ans du Parc National, donc voilà, c'est le week-end du 25 et 26 septembre, merci beaucoup d'être avec nous, exceptionnellement aujourd'hui je ne fais pas d'édito parce qu'il y en a des choses à dire sur le Parc National, vraiment beaucoup. Anne, vous êtes directrice du Parc National depuis quand ?
Depuis janvier 2016.
Ça fait 4 ans, pas mal.
Oui, c'est ça.
Et encore des belles années devant vous ?
J'espère.
Croisons les doigts. Et vous, Henri, vous êtes président depuis ?
Eh bien, depuis 2015, moi.
Ça remonte aussi un tout petit peu.
Ça commence à faire un peu de temps, oui.
Allez, c'est parti. Si on parlait vraiment de la création du Parc National des Cévennes qui fête ses 50 ans, comment est née l'idée à l'époque du parc ?
Oh, l'idée du parc, c'est au départ, c'est quand même une volonté de Paris, hein, qui... voulait faire quelque chose dans un endroit qui, à ce moment-là, était en déprise totale au niveau de l'agriculture, au niveau humain, au niveau de tout. Et on a pensé quand même que dans cette magnifique région, ben, pouvait se mettre un parc national. Car il faut quand même rappeler tout de suite que les parcs nationaux sont quand même des joyaux de la biodiversité, des paysages, de tout un tas de choses, et des hommes qui y vivent, des hommes et des femmes qui y vivent. Et donc, voilà, ça a été, je pense qu'au départ, ça a été un rêve qui a été fait. Enfin, je le prends comme ça, hein, puisqu'en 70, j'étais quand même un peu plus jeune. Et donc, ce qu'on m'a rappelé, ce qu'on m'a raconté, hein, ça a été d'abord des échanges avec la population, hein, puisqu'il a fallu quand même que la population adhère à cette idée. Même s'il y avait des grandes idées avant, et des grandes idées faites par des gens qui étaient... des gens intellectuellement bien fournis, il a fallu quand même, la première des choses, c'était d'adhérer, de faire adhérer, bien entendu, la population, ce qui n'a pas été une mince affaire. Et au jour d'aujourd'hui, 50 ans plus tard, maintenant âge de la maturité, mais aussi âge aussi de la créativité et donc d'avoir aussi quelque chose à faire vivre un futur qui doit être impacté au niveau du territoire, eh bien on voit qu'aujourd'hui, 50 ans plus tard, eh bien il y a encore des gens qui ne sont pas d'accord avec le parc national, et c'est normal.
Ouais, on peut laisser la porte ouverte au débat, c'est sûr, tant qu'il se passe dans la sérénité, c'est vrai.
C'est exactement ça, c'est même, on le voit moi en tant que président du conseil d'administration, on voit quand même que la population aujourd'hui est représentée les acteurs locaux, au niveau de la répartition des sièges, sont majoritaires, ce qui n'était pas il y a quelques années. Et au jour d'aujourd'hui, il faut le dire, c'est bien les acteurs locaux, les élus, et donc qui axent aujourd'hui les directives et les réalisations de demain. Et c'est en conseil d'administration que tout se passe. Et donc ce n'est pas quelque chose... qui a été voté à Paris, mais c'est bien quelque chose qui est voté à Florac, à chaque fois qu'il y a un conseil d'administration.
Anne, on va tout de suite rétablir une vérité, puisque juste avant de prendre l'antenne, j'ai dit une grosse bêtise, et du coup, non, mais voilà, allons-y.
C'est pas une grosse bêtise, il ne faut pas exagérer, parce qu'il y a une part importante de vérité.
Donc, le parc national des Cévennes est habité en cœur de parc, mais ce n'est pas le seul parc national habité.
Oui, mais la différence, effectivement, avec les autres parcs qui sont habités dans leur cœur, comme La Réunion, comme Porquerolles, Porquerolles ou les Calanques, c'est qu'on a vraiment une population de résidents permanents qui exploitent les ressources du territoire, donc par l'agriculture, par la forêt. Et c'est vrai que pendant longtemps, nous avons été l'un des seuls, puisque les premiers parcs, comme la Vanoise ou les Écrins, n'étaient pas habités en cœur.
Voilà. C'est rétabli maintenant.
Est-ce que je peux faire une remarque pour poursuivre par rapport à ce que disait
Avec
Henri
plaisir.
Sur l'historique? C'est vrai que l'idée des parcs nationaux, c'était une loi qui est passée en 1960 en France. Et peut-être que l'idée est venue de Paris, mais cette idée, elle était portée par des acteurs locaux depuis longtemps. Qui avait porté l'idée d'un parc avant même la création de la loi portant naissance des parcs nationaux en France. On retrouve des écrits qui datent d'ailleurs du début du XXe siècle. En 1913, le géologue Martel disait que ça pourrait être intéressant de créer ici un parc national. Et ensuite, les docteurs Richard et Pellet, qui sont bien connus, hein, le docteur Pellet de Genolac, ont porté cette idée d'un parc national. Donc c'est vraiment une idée qui a été à la fois, comme le disait Henri, parfois contestée, puisque en 67, il y a une association des terres cévenoles qui s'est créée pour dire non au parc, mais elle était aussi portée par un certain nombre d'acteurs locaux, et on le disait avant de prendre l'antenne, en 56, le conseil départemental de Lozère a voté à l'unanimité pour la création du parc national des Cévennes.
Et avec une charte, la dernière charte, si je ne m'abuse et si mes informations sont exactes, date de 2013, il me semble.
C'est ça.
Est-ce qu'elle évolue encore ou alors est-ce qu'elle est figée? Enfin, parce qu'on imagine que les contraintes ne sont plus les mêmes peut-être aujourd'hui, quelques années après.
Mais en fait, c'est la dernière et c'est aussi la première. Il n'y avait pas de charte avant dans les parcs nationaux. C'était uniquement pour les parcs naturels régionaux. Et donc, c'est ce qu'expliquait Henri. En 2006, il y a eu une loi de réforme des parcs nationaux qui introduit le fait qu'il y a un conseil d'administration où aujourd'hui la majorité des personnes qui siègent sont des locaux, ce qu'a vraiment bien expliqué Henri. Et en plus, on a créé donc un projet de territoire discuté avec la population qui s'est matérialisé sous forme d'une charte. Avant, ça n'existait pas.
Alors justement, si on parle des habitants et des associations qui bossent sur le territoire, notamment pour l'environnement, je pense au Réel 48, par exemple, qui a obtenu le label CPIE. Le parc, entre le parc et, et les associations, ça doit être quelque chose d'important.
Ah, c'est quelque chose de très important. De toute façon, on est partenaire sur ce territoire, hein, puisque vu que nous ne sommes pas nombreux, dès qu'il y a des associations, quand il y a une bonne volonté, au jour d'aujourd'hui, eh bien, de toute façon, il faut qu'on soit partenaire, mais pas partenaire parce qu'on doit être partenaire. C'est parce qu'on est partenaire, parce qu'on a envie donc de partager quelque chose et de faire évoluer la chose. Donc c'est pour ça que le Réel et d'autres associations sont des partenaires normaux, je dirais, oui, voilà, normaux, du parc national, et puis on discute chacun dans notre domaine et on se complète pour être au plus près, parce que moi, ce qui m'importe le plus, c'est d'être au plus près de la population. Si on fait quelque chose, même si on a des très grandes idées, et après on essaye de les partager, mais il faut que la population adhère. Si la population adhère, il n'y a aucun souci.
J'ai une demande des auditeurs et des auditrices. Évidemment, je ne peux pas passer à côté, puisque vous dites que les habitants doivent adhérer et être d'accord. Forcément, on va parler de la zone artisanale qui veut se créer à Cocurès. Il y a des rassemblements aujourd'hui. Il y a vraiment une majorité de la population à Cocurès qui n'est pas pour. Quel est votre positionnement là-dessus?
Alors là, je vais changer de casquette, hein, puisque ce n'est pas le président du parc qui va vous répondre, c'est le président de la communauté de communes. C'est un dossier qui a 9 ans. Quand nous avons fait la communauté de communes par rapport à la loi NOTRe en 2017, la communauté de communes Gorges-Causses-Cévennes, nous avons repris ce dossier. Pourquoi? Parce que c'était une volonté de la commune de Cocurès, à l'époque qui n'était pas encore en commune fusionnée Bédouès-Cocurès. Et ce bout de terrain avait été depuis plus de 25 ans déclassée en terre agricole et n'était pas une terre agricole, c'était une zone qui était là pour construire une zone artisanale. D'ailleurs, au départ, je crois que les élus de l'époque l'avaient fait pour qu'il y ait une extension de la sérifage. Et donc, c'est pour ça que les gens avaient donné leur bout de terrain. Donc, il n'était pas, pas classé en zone agricole. Du moment qu'il n'était plus classé en zone agricole, de par la volonté de la commune et surtout donc la mise en place et le maintien des entreprises à Cocurès, avec 60 employés, pour ne pas le citer, dans l'entreprise Chapelle, plus des gens qui se sont greffés, comme l'entreprise Pantel et d'autres personnes qui sont greffées sur cette zone, donc les cinq lots, nous avons discuté autour du conseil communautaire. Le conseil communautaire a voté comme quoi il fallait que l'on continue donc, de faire cette zone. Donc automatiquement, moi en tant que président de la communauté de communes, je fais ce que dit mon conseil communautaire et nous avons mis tout en œuvre pour la faire. Au jour d'aujourd'hui, nous avons eu des fouilles archéologiques qui viennent d'être terminées. On n'a rien trouvé là-dessus. Donc dans un moment, il y a encore un recours qui est contre l'État qui va être jugé. C'est le dernier recours, c'est le premier recours en définitive qui n'a jamais été jugé. C'est un recours qui avait été fait contre l'État. Et donc ce recours va être jugé à la cour d'appel de Marseille, je crois de Marseille, le 22. Donc nous attendons le 22, et si tous les recours sont levés, eh bien nous allons attaquer les travaux.
Droit de réponse, évidemment, ici, auditeurs, auditrices, n'hésitez jamais, on est là pour débattre, il n'y a pas de souci. Alors, justement, Anne, on va parler aussi des échanges un peu compliqués parfois avec les agriculteurs. C'est complexe, ce lien, quand même, entre parc et agriculteur.
Oui, forcément, on a une réglementation qui se superpose à toutes celles qui existent déjà. Et c'est souvent ce que les agriculteurs reprochent au parc, c'est de dire, en fait, contrairement à tous les autres agriculteurs du territoire français, nous, on a déjà les règles de la PAC, on a des règles liées à Natura 2000, enfin, toutes sortes de choses. Et en plus, on a la réglementation du parc. Donc, ça fait un peu beaucoup.
Vous comprenez des fois qu'ils en aient un peu ras-le-bol ?
Ben, je comprends qu'effectivement, le métier d'agriculteur, c'est un métier qu'on choisit parce qu'on veut être son libre patron, parce qu'on veut décider sans avoir énormément de contraintes. Et c'est vrai que dans les 50 dernières années, le métier s'est énormément administratisé, si je crée un nouveau mot, comme on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a, notamment par rapport à la politique agricole commune, il y a énormément de choses qui sont encadrées aujourd'hui. Et ils nous disent souvent l'autorisation à demander au parc, même si dans 99% des cas, elle est accordée, c'est souvent le papier de trop. Je peux comprendre ce souci. On fait tout au niveau du parc pour que justement le processus se mette en place de la manière la plus simple possible. Il n'y a jamais une autorisation qui est délivrée sans qu'il y ait à minima un contact avec l'agriculteur en physique sur son exploitation. Souvent, c'est deux ou trois. On essaye de faire que ça soit le plus simple possible. On a un cadre à respecter. Mais il me semble quand même que la majorité des 400 exploitations qui exploitent en cœur de parc ne sont pas pénalisées, puisque d'ailleurs, quand le parc s'est créé, on avait beaucoup moins d'exploitations en cœur de parc. Ça montre bien qu'il est possible de travailler en cœur de parc et que ça ne représente pas une contrainte infranchissable pour de nombreux exploitants agricoles. Le nombre d'exploitations a augmenté en cœur de parc. Le nombre d'habitants qui vivent en cœur de parc a augmenté depuis la création du parc. Ça, je pense qu'il est important de le rappeler.
Et puis des choses sont mises en place aussi pour une meilleure exploitation, une meilleure gestion des ressources naturelles. Je pense notamment à la charte bois. Qui a été faite l'année dernière, il me semble.
Oui, c'est un travail qui a commencé il y a 2 ans et demi. Et effectivement, la charte pour une exploitation raisonnée. Alors, les forestiers ne veulent pas qu'on dise exploitation. Récolte de bois. Voilà, récolte de bois. Parce qu'effectivement, une forêt, ça se récolte. Voilà, et c'est important effectivement d'utiliser les bons mots. Elle a été travaillée avec l'ensemble des acteurs de la filière forêt, donc les propriétaires, les exploitants forestiers, etc. Et on est arrivé à une quinzaine d'engagements qui sont pris pour avoir une exploitation en accord avec la réglementation du parc et qui satisfasse aussi aux exigences et aux contraintes des forestiers, bien évidemment.
Est-ce que vous avez des échanges de compétences entre tous les parcs nationaux ? Est-ce que, je sais pas, vous voyez une fois par an, par exemple, pour dire « Ah ben nous, on en est là, on a fait ça » ou est-ce que c'est compliqué ?
Ah non, c'est pas compliqué du tout. Alors, au niveau des directions de parc, on a des réunions mensuelles par téléphone et on se voit 2 fois par an en physique, à minima. Ensuite, on a des équipes projet, je dirais, donc qui peuvent se retrouver plus fréquemment. Je laisserai Henri parler pour les présidents, parce que vous vous êtes organisé récemment.
Oui, on s'est réorganisé. Pourquoi ? Parce qu'on avait Parc National de France, PNF, qui donc nous réunissait aussi en tant que président. Et puis donc PNF a été un service qui est passé dans
l'Office français de la biodiversité.
Voilà, c'est ça, dans l'OFB. Donc on s'est retrouvé, nous, présidents de Parc, sans quelque chose qui nous réunissait. Et on a créé la conférence des présidents. Donc on a le président du Parc national des Pyrénées qui nous représente dans cette conférence et on se retrouve physiquement à pareil, 2 fois par an. On va quelquefois à des réunions où on travaille ensemble pour voir ce qu'on peut faire sur l'évolution des parcs et notamment un échange aussi donc avec notre ministère de tutelle. Donc on a ces réunions qui sont dans des parcs, donc on tourne dans les parcs. D'ailleurs, le 25, le jour de... Donc on va avoir une conférence des présidents à Florac où les présidents seront là, présidente et président, pardon. Et donc après, on a donc des réunions quelquefois ponctuelles, journalières, où on va, sur un point précis, rencontrer notre tutelle à Paris. Donc on fait un aller-retour dans la journée à Paris, ce qui est extraordinaire. On a vraiment des rapports et puis on a des conférences. Alors après que avec le Covid, après on a eu des réunions téléphoniques comme tout le monde. La visio, on n'y est pas encore arrivé, mais on a eu des conférences téléphoniques. On a beaucoup plus de rapports et de rencontres qu'avant. Donc il y a un réseau qui se crée et notamment le réseau a été un réseau fort pour la création du 11e parc qui vient d'être inauguré et qui est le parc des forêts. C'est un nouveau parc et on a été, je crois, le collectif des présidents a énormément travaillé pour que son 11e parc se fasse.
C'est en Bourgogne, c'est ça ?
C'est Bourgogne-Champagne.
C'est ça. Justement, alors, est-ce que vous échangez aussi sur le tourisme ? Parce que tous les parcs nationaux, voilà, vivent aussi de ça. Est-ce que c'est simple d'allier, justement, un parc national avec toute la biodiversité que ça a et justement, un tourisme, entre guillemets ? Là, on a vu une saison absolument incroyable où, les gens voulaient, à mon avis, être en France. Donc, on a vu débouler une masse de touristes qui était folle. Comment ça se passe, cette relation ?
Je pense que les gens voulaient être en France et ils voulaient surtout être dans des endroits de nature. En fait, ils ont été confinés. Il ne faut pas oublier que la population française, elle est essentiellement urbaine maintenant. Ils étaient dans leurs appartements, ils n'en pouvaient plus. Ils avaient envie de grands espaces, ils avaient envie d'espaces préservés. Et ce qui explique effectivement qu'on a eu un afflux de touristes ici et notamment de touristes qu'on ne voyait pas habituellement. Des gens qui découvraient le territoire. Alors, ça se passe plus ou moins bien suivant les territoires. Le parc de Porquerolles, par exemple, avec les îles de Porquerolles, est complètement saturé. Et eux, ils cherchent à limiter le touriste parce que le nombre de touristes, parce que c'est ingérable. Et c'était déjà ingérable avant la crise sanitaire que nous connaissons. Alors, cette année, j'ai eu le directeur de Porquerolles récemment. C'était infernal. Ils ne savent plus comment faire. C'est aussi une problématique dans les calanques, milieu fragile s'il en est. Nous, il faut le rappeler, on est quand même le plus grand parc national de métropole, 3000 km². On a une densité de population résidentielle qui est assez faible. Hein. Sur les côtes, on est un habitant au kilomètre carré, donc on a quand même de la place. Alors c'est vrai que dans certains lieux, notamment les lieux de baignade, cet été, il y a pu avoir des concentrations. Mais on ne va pas quand même se plaindre d'accueillir des touristes sur notre territoire. Ça fait vivre le territoire, ça fait vivre les gens qui ont des gîtes, ça fait vivre les commerçants qui ont eu un printemps complètement perturbé avec le Covid. Et donc là, ils ont rattrapé leur saison. Donc moi, je pense que c'est tout à fait gérable. Et je dirais aussi que les gens qui viennent dans les territoires de parcs nationaux, c'est en général des gens qui sont respectueux de ces territoires.
Est-ce que, parce qu'il y a toute une partie là sur les 25 et 26 septembre prochains, sur la projection dans 50 ans, est-ce que le parc se donnera encore les moyens de ses ambitions ?
Là, Henri, vous avez une boule de cristal, parce que moi, je n'en ai pas. Donc,
Non, je l'ai laissé chez moi et je n'ai pas pensé à la panne ce matin, c'est vrai. C'est une belle question, mais pour répondre à ça, excusez-moi, mais...
On se retrouve dans 50 ans.
Voilà, oui, enfin moi, j'aurai plus mal aux dents dans 50 ans, donc il n'y a pas de problème, mais bon.
Non, mais c'est surtout au moment où on peut parler forcément de restrictions budgétaires, etc., et de faire des économies, c'est toujours un petit peu compliqué. Et faire vivre une machine comme le parc national des Cévennes, ça demande des moyens aussi.
Il y a une chose qui est sûre, c'est que tous les parcs nationaux, comme je disais tout à l'heure, et notamment le parc national des Cévennes, qui est le plus beau, hein, il faut quand même le dire. Moi, je peux le dire, donc je le dis. C'est le plus beau de tous. Est une machine extraordinaire, mais est une machine qui doit avoir... en personnel et en finance, ce qu'il faut, là où il faut. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas pour faire de qu'on soit alarmiste et qu'on se mette tous à pleurer, mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes au parc national des Cévennes, comme dans tous les autres parcs, au taquet. On ne peut pas aller plus bas au niveau des effectifs. C'est impossible. Ou alors, il faudra que l'État prenne ses responsabilités et nous enlève des missions. Il n'y a pas 36 solutions. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus enlever du personnel au parc. Voilà. Après, chacun prendra ses responsabilités.
Pourvu qu'ils vous entendent.
C'est l'intérêt de l'organisation de la conférence des présidents, puisque avoir des élus qui s'organisent pour peser au niveau du ministère de tutelle, pour aller rencontrer les parlementaires, les présidents de conseils départementaux, ça nous permet effectivement d'avoir plus de poids. Et on l'a vu l'an passé.
On l'a fait l'an dernier.
Voilà. Et la mobilisation des présidents de parcs nationaux l'an dernier nous a permis de ne pas avoir de diminution de moyens. Voilà.
Bonne nouvelle. Juste avant de parler de la programmation du week-end d'après, d'ailleurs, on a vu une espèce de communication. Il y a une image et une perception du parc national des Cévennes qui a changé d'un territoire un peu isolé comme ça. Il y a comme une ouverture qui s'est faite. C'est quoi votre avis là-dessus ?
Ben moi, je pensais pas qu'on soit très très isolé non plus. Donc ça m'a pas choqué cette histoire d'isolement. Au contraire. Vu la saison touristique qu'on vient de passer, je crois qu'ils ont tous trouvé la route de la Lozère, et notamment des Cévennes, et des Causses, et des Gorges. Mais non, je crois que, comme dans l'état d'esprit où nous sommes, le tout, c'est de ne pas faire n'importe quoi. D'ailleurs, on n'a pas attendu que les touristes viennent, puisque les parcs ont travaillé, notamment pour les giteurs, les loueurs et bien d'autres maintenant, puisqu'on est dans l'alimentaire, sur la marque Esprit Parc, qui est déclinée donc, dans chaque parc, donc Esprit Parc, Esprit Parc National Cévennes. Et c'est du tourisme de qualité, c'est du tourisme qui est éco-responsable. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on joue. Hein. Il faut le tourisme de masse, d'abord, on n'en veut pas. Enfin, moi, j'en veux pas. mais le tourisme de masse, de toute façon, on n'aura pas de tourisme de masse. Même si on a beaucoup de monde ici, on n'aura pas ce qu'on appelle vraiment du tourisme de masse. On ne sera pas comme au bord de la mer, c'est pas possible. Mais quelque part, on ne le souhaite pas. Maintenant, il ne faut pas que ce soit non plus un tourisme qui soit d'une qualité extrême et qui ne fasse venir que des gens qui soient donc dans cette optique-là. Donc il faut quand même qu'on soit dans toutes les strates des touristes et du tourisme, qu'on aide au mieux tant que faire se peut. Et je vois pas... Enfin, nous, au jour d'aujourd'hui, je pense que si on nous voyait un peu enclavés et un peu donc en dehors des routes, ben quelque part aujourd'hui c'est notre force.
Et d'ailleurs, si on parle de ça, et pour éviter d'oublier justement, il y aura l'inauguration de la maison du tourisme, c'est ça?
Ah oui, ça c'est autre chose. Ça c'est une première en France. C'est une mutualisation qu'a fait une communauté de communes avec un établissement public, donc un parc national. Et donc on a... donc moi je connais bien le président de la communauté de communes, le président de la communauté de communes connaît bien le président du parc, donc ça, les relations sont aujourd'hui à beau fixe, et donc ça a été quelque chose qui a facilité, parce qu'au départ la maison du parc ne devait pas être donc à l'ancienne gare, elle devait être normalement au tribunal. Donc c'est vrai que moi quand je suis arrivé donc en tant que président du parc, j'ai vu des gens qui avaient énormément travaillé pour faire cette maison là j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Et l'idée était de mutualiser. Donc on a mutualisé, la communauté de communes a pris en charge donc, le bâtiment et a fait un bâtiment à l'ancienne gare de Florac donc pour mettre son office du tourisme. Et puis nous avons aussi donc, mis un espace à disposition du parc national pour qu'il y ait la maison du parc national des Cévennes, puisque nous étions le seul parc qui n'avait pas une maison du parc national. Voilà. Tous les autres, non, nous n'en avions pas. Donc on l'a mis, ça roule. Bon, il y a encore des réglages à faire, c'est normal. Hein, dès qu'il y a une mutualisation, eh bien, il faut que les gens, à force de l'utiliser, ça ira de mieux en mieux. Et donc c'est vrai que pour nous, c'est une fierté. Au niveau de la communauté de communes, au niveau du parc, parce que c'est une première à faire pour faire cette mutualisation qui sera donc inaugurée le 25 septembre en présence donc de la secrétaire d'État donc Bérangère Abba, qui viendra aussi bien entendu avant au parc et puis qui viendra donc à cette inauguration. C'est quelque chose qui pour nous est important.
Virginie. Voilà, on va parler de la programmation et donc après l'inauguration, ça commence à la Genette Verte à 20h30 le vendredi.
Oui, moi j'ai plus vous parler du côté grand public pour permettre à tous nos habitants, partenaires, acteurs locaux de venir vivre et fêter avec nous, célébrer ces 50 ans du parc. Donc on a concocté depuis pas mal de temps déjà avec les équipes du parc, mais aussi avec des partenaires, parce qu'on avait créé un comité des 50 ans pour faire émerger les idées, les envies des territoires et des acteurs locaux. Donc on a concocté une belle programmation sur une soirée et toute une journée. Donc on commencera nous à 20h30 à la Genette Verte pour une soirée d'ouverture avec des invités d'exception, hein, puisqu'on aura Eric Orsena qui sera parmi nous, mais on aura aussi Valérie Chansigaud qui est une chercheure en sociologie et environnement, et deux intervenants de réseau d'experts, Antoine Nico, Guillaume Simonet, pour nous parler de quel va être l'impact du changement climatique sur notre territoire, comment on peut vivre ce changement climatique et comment on peut s'adapter. On va être dans la construction. Bien sûr, on aura des constats parce qu'on a fait réaliser une étude qui va être présentée à cette soirée pour montrer qu'est-ce qui peut se passer chez nous, qui se passe déjà en fait. Hein. C'est déjà en cours, bien sûr. Mais on va essayer de construire l'avenir ensemble, ce qu'on disait tout à l'heure, on se projette. Donc on va avoir un animateur pour animer ces débats. Ça va être Monsieur Hervé Gardette de France Culture, qui va nous aider à réfléchir, à donner la parole, parce qu'on aura bien sûr des questions avec la salle et aussi avec les réseaux sociaux, parce qu'on a décidé par rapport à cette contrainte sanitaire forte qu'on a depuis quelques mois, d'avoir une diffusion en streaming. Donc vous pourrez suivre cette soirée, même si finalement pour accueillir à jauge pleine à la Genette Verte, il n'y aura certainement pas assez de place pour accueillir tout le monde. Donc vous pourrez suivre la soirée et poser vos questions.
Inscription obligatoire.
Et oui.
Il va falloir s'habituer à tout ça. Et évidemment, toutes les infos sont sur le site internet. Et je mettrai le lien, nous, sur notre site en fin de matinée. Et puis le samedi Alors là, on part dans le futur.
Voilà, on part dans le futur. On donne rendez-vous à 100 chanceux du territoire. C'est aussi sur inscription pour venir vivre avec nous une expérience inédite, jouer au futur. Donc on est accompagné par des spécialistes, des futurologues qui nous viennent de la capitale pour nous emmener dans le futur et faire cet immense pas en avant pour construire l'avenir dans les 50 prochaines années. Comment on va pouvoir vivre notre quotidien dans les Cévennes? Donc sur des thèmes fondamentaux pour nous, l'agriculture, l'alimentation, les déplacements, la communication, le tourisme, le loisir, eh bien on va jouer au futur et rentrer dans la peau d'un personnage futur pour construire 16 scénarios d'avenir qui seront présentés l'après-midi au château à 16h.
Et nous, on les aura en plateau à 14h, en début d'après-midi, 13h30, 14h. Voilà, puis il y aura forcément exposition, 50 ans d'aventure humaine, et ça c'est...
Ah ouais.
Ça, entre passé et futur.
On a un travail qui a été fait de façon exemplaire et fabuleux par les équipes du parc pour retracer cette histoire du regard des hommes et des femmes qui ont construit ce parc. Alors avec les acteurs locaux qui étaient à l'origine, avec les gens qui sont dans le conseil d'administration, avec les agents du passé, du présent, qui ont permis que ce parc existe et toutes ces belles initiatives. Donc c'est vraiment un moment d'échange de souvenirs qui va être en plus mis en exergue à 14h. Donc c'est aussi sur inscription. On a organisé des causeries qui seront animées par un comédien pour nous permettre d'échanger nos souvenirs, justement. Alors si vous ne pouvez pas venir à celle-ci, mais sachez que sur tout le territoire, d'ici la fin de l'année, elles seront organisées sur tous les massifs du parc national. Il y aura l'exposition qui sera installée avec des causeries qui seront organisées. Donc on n'a pas encore toutes les dates, mais bien sûr, ça sera sur notre site internet. Et en 2021, l'exposition 50 ans d'aventure humaine tournera aussi sur le massif et restera plus longuement sur les Goales, dans les Cévennes, sur le Mont Lozère, sur le Causse ou les Gorges, pour permettre à tout le monde de pouvoir découvrir cette belle exposition. On a une autre exposition aussi intéressante qui va être au tribunal. C'est donc l'exposition Regard d'avenir. Et là, on va vous parler de ce que le parc national conduit avec les jeunes du territoire. Alors, pas que pour l'année des 50 ans, mais les aires terrestres éducatives, les ABC, la biodiversité. On va vous présenter toutes ces initiatives. Et bien sûr, ce que cette année anniversaire, on a proposé aux jeunes du territoire de vivre à nos côtés et surtout axé sur le futur en disant comment vous imaginez la vie des Cévennes, vous les jeunes, quel sera votre avenir dans les Cévennes. Donc on vous propose de découvrir cette exposition à partir du vendredi soir et toute la journée du samedi.
Et puis, il y aura aussi une idée originale, il y aura une malle temporelle.
Oui, tout à fait. Donc là, on propose à tous nos partenaires de remplir cette malle. Donc il y aura différents moments dans le week-end pour le faire. Nous, déjà, on a collecté beaucoup d'éléments, parce que cette malle, c'est complètement un témoignage qu'on veut laisser aux habitants du futur en disant, nous, en 2020, le parc, c'est comme ça. On imagine notre futur comme ça. Ben, dans 50 ans, on vous propose d'ouvrir cette malle, enfin, ceux qui seront là.
Et... on y sera avec Henri, de souci. Ouais.
Et voir, et du coup, on va la cadenasser, on va la fermer, on va la garder précieusement au château. Et dans 50 ans, pour les 100 ans du parc, vous pourrez la réouvrir et découvrir comment on imaginait le futur.
Et deux concerts de Pierce Faccini à 18h au Temple et de Bongo Hop à la Jeunette Verte à 21h. Les réservations sont obligatoires chez nos amis de Seine-Croisée, seinecroisee.fr. D'ailleurs, à ce propos, je recevrai le directeur des Seine-Croisée mercredi matin en matinale. Voilà, en tout cas, ça va être un bel événement. Et puis, c'est sûr qu'il va avoir lieu, il n'y aura pas d'annulation.
Alors là,
pas de boule de cristal non plus. C'est toujours chez Henri.
Nous espérons que, bien entendu, que ça se passe, qu'on ait beau temps. Donc, ils annoncent mauvais temps pour ce week-end. Donc j'espère que le 25, il y aura beau temps. Et puis après, vous savez bien qu'on est dans une période particulière et que on est toujours avec une épée de Damoclès sur la tête. Et donc nous, on espère fortement que nous n'aurons pas de problème. Et que nous pourrons passer un 25 et un 26 dans la joie, dans la bonne humeur, et pour aussi donc fêter ce parc national qui a 50 ans aujourd'hui. Moi, je voudrais juste dire un mot, parce que je voudrais remercier toutes les équipes du parc et vous pour le travail qui a été effectué. Parce que ça ne paraît pas, mais c'est une énorme machine. Moi, le premier, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse autant de coulées d'encre, qu'il y a eu tant de réunions. Enfin, c'était... Non, ça a été quelque chose qui a été fait vraiment de manière très professionnelle, avec une directrice qui ne rigole pas là-dessus et qui est au carré tous les jours. Donc, je sais la pression qu'elle a mis aux équipes. Donc, je remercie bien les équipes. Et j'espère franchement que ce sera deux belles journées qui seront, et je le dis vraiment, qui seront pour nous au niveau du parc, parce que moi je dis nous le parc, et surtout que ce soit une reconnaissance aussi des acteurs du territoire et que la population prenne autant d'envie et autant de plaisir que nous pendant ces deux jours.
Anne, le mot de la fin peut-être ?
Eh bien, pour compléter ce que dit Henri, on invite d'ailleurs tous les habitants à venir partager le gâteau d'anniversaire avec nous le samedi.
Oui, parce qu'il y a un gâteau quand même.
Voilà, hein, non plus, voilà, hein. Exactement. Ouais. Donc, et on sera vraiment heureux de le partager avec tous les habitants du territoire qui voudront bien être là avec nous pour souffler les bougies et goûter ce gâteau. On a même deux gâteaux, on en a un le 25, on en a un le 26. Un qui sera fait par Monsieur Juillet et un qui a été fait par les élèves du lycée hôtelier de Saint-Jean-du-Gard. Donc ça aussi, on en est très contents. C'est une façon de faire partager le territoire, comme le disait Henri.
Le gâteau du parc, ce sera à 17h. Merci beaucoup, Anne-Gilles.
Merci.
Vous êtes directrice du parc national. Merci beaucoup, Henri Coudert.
Merci à vous.
Vous êtes président du parc. Merci, Virginie.
Merci.
Les 50 ans du parc national des Cévennes, c'est les 25 et 26 septembre. Toutes les infos sont sur le site du parc. Et je mets le lien sur notre site dans un instant. Merci, Nico. C'est pas grave. Voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve donc mercredi avec Florian Olivérez, qui est directeur des scènes croisées. C'est leur rentrée. Merci à toutes et tous de nous suivre. On se quitte avec Pauline Croze. Tiens, ouais, Pauline Croze, ça va être très bien. Ne rien faire, mais quoique, des fois ça fait pas de mal, mais pour un lundi matin, c'est toujours comme ça. Profitez bien de votre journée. À mercredi. Ciao.
Je suis passée devant toi, arrêtée sur image. Tu regardais vers la plage, sans faire attention à moi. Tu ne cherchais pas à faire illusion ou impression, cachée derrière tes solaires, ni bon ni mauvais garçon. Combien j'ai aimé ta façon de ne rien faire. Ta façon vite regretté, sous mon cœur en vert teinté, j'ai dansé sans regarder les autres visages. J'ai parcouru tout l'été à me dire dommage, combien j'ai haï ma façon de ne rien faire, ma façon de ne rien faire, ma façon. Sans regarder les autres visages, j'ai parcouru tout l'été à me dire dommage, combien j'ai haï ma façon de ne rien faire, ma façon.